Mon époque, ma radio. Allô la planète avec Eric Lange sur lemove.fr.
Et c'est reparti, monsieur, dame. Une heure d'Allô la planète. Êtes-vous tous qui êtes éparpillés de par le vaste monde pour nous joindre et participer à l'émission? Un petit mail, alloulaplanète@radiofrance.com, la page Facebook de l'émission et le répondeur qui marche tout le temps, 331 56 40 54 54. Aujourd'hui, on va parler d'expatriation avec Sandrine Mercier et Michel Fonovitch qui publient aux éditions de La Martinière un livre qui est un recueil de 28 portraits de Français expatriés. Le livre s'appelle « Ils sont partis vivre ailleurs sur tous les continents » et on va passer l'heure à les appeler.
Allô la planète sur le Move.
Ils sont là, ils sont arrivés en retard tous les deux, Sandrine Mercier et Michel Fonovitch. Bonjour tous les deux, bienvenue.
Bonjour,
il faut ouvrir leur micro, s'il te plaît, camarades, voilà.
On est pas en retard, on est juste à l'heure.
Oui, bah, ouais. Alors, juste à l'heure, à la radio, ça veut dire en retard. Voilà. Non, mais ça va, vous inquiétez pas, installez-vous, chaussez les casques, mettez-vous devant les micros. Pourquoi ils sont là avec nous aujourd'hui? Parce que Sandrine et Michel dirigent et ont créé le magazine AR, que vous connaissez bien, dont on parle régulièrement dans l'émission, le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux, le moins cher de tous les magazines de voyage. C'est bon, ça te va comme ça?
C'est un spécial Amérique latine qui est dans les kiosques en ce moment.
Et un spécial Amérique latine qui est dans les bons kiosques en ce moment. Et comme ils ont leur week-end de libre, ils se sont dit, tiens, on va faire un livre. Il est sorti aux éditions de La Martinière, ça s'appelle Ils sont partis vivre ailleurs, pardon, 28 portraits d'expatriés. Vous avez donc rencontré 28... Vous êtes allé chez 28 personnes dans le monde, Sandrine?
Bon, on fait comme toi, par Skype, au téléphone. Il y en a quelques-uns quand même qui ont croisé, ou Paris a croisé leur route, donc on les a rencontrés à Paris.
Quelques mots de façon générale, parce qu'on va en appeler quelques-uns pendant l'émission. Enfin, ceux qui répondront, on a toute une liste. Il y a de plus en plus de monde dans le monde, on est d'accord?
Je pourrais jamais dire aussi bien, donc.
Non, mais...
Oui. Il y a de plus en plus de monde dans le monde, et depuis 12 ans, en fait, effectivement, ils les ont comptés, hein, tous les expats. Ouais. Et il y en a 2,5 millions exactement aujourd'hui, même si dans les ambassades, on n'en compte que 1 700 000.
Ah, les 2,5 millions, c'est tu comptes ceux qui ne s'inscrivent pas.
Parce exactement.
On est censé s'inscrire au consulat quand on va s'installer ailleurs, bien sûr, mais on
a
le droit de ne pas le faire.
Oui.
Non, bon, on n'y pense pas forcément.
Non, il y a des gens qui ne veulent pas forcément être inscrits sur les listes.
Ah oui.
Oui. Il y a des électrons libres, il y a des Français électrons libres. Voilà.
Donc 2,5 millions de Français expatriés, ça augmente?
Et ça augmente, donc plus 50% depuis ces 10 dernières années. C'est un vrai phénomène.
Mais est-ce que c'est un phénomène, est-ce que vous croyez, enfin j'en sais rien, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites, est-ce que c'est un phénomène logique? Après tout, le monde est plus ouvert, il est plus facile de voyager aujourd'hui, il est plus facile de s'expatrier à droite à gauche. Est-ce que c'est simplement logique ou est-ce qu'on en revient à la fameuse fuite des cerveaux où là, tout le monde s'en va? À votre avis. Hein.
Non, c'est plus logique dans la mesure où, notamment les jeunes, ont un cursus international. Ils ont Erasmus, ils voyagent, donc en toute logique, après leurs études, ils ont aussi encore envie de vivre à l'étranger.
Ouais, ça a marché, quoi. En fait, on a poussé les jeunes à voir le monde, et ben, ils y sont allés.
Ben oui, le monde est un village maintenant pour eux. C'est vrai qu'avec des expériences internationales dès le début, après quand ils cherchent du boulot, quand ils ont envie de poursuivre leur vie, ils disent pourquoi pas retourner au Mexique ou aller en Russie plutôt que d'aller à Guéret.
Enfin, j'imagine que vous en avez rencontré pas mal et vous avez choisi que 28 portraits. Est-ce que vous êtes tombé sur des gens qui regrettaient d'être partis, qui vous ont dit finalement c'est à refaire? Ben, non.
Non.
Non, hein.
Non, tout le monde. Je crois qu'il y a quelquefois des moments difficiles, mais tous, il n'y a personne qui a regretté.
Non, c'est plutôt des gens sympathiques et heureux de vivre là où ils sont, même si tout n'est pas rose.
Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'on pourrait faire un portrait type de l'expatrié français? Ou au contraire, non, il y a de tout.
Non, il y a un peu de tout. Dans notre livre, ils ont plutôt un profil d'aventurier. Des gens qui partent avec des projets, qui veulent aller au bout d'une idée, d'un rêve. Et qui partent souvent seuls, ou voilà, qui comptent d'abord sur eux-mêmes et qui ne sont pas affiliés à une grosse boîte qui leur paye tout. Voilà. Donc c'est plutôt un profil aventurier, dans notre livre en tout cas.
Oui, il y a une dose d'aventure. Ils se sont dit quand même, plutôt que de vivre un peu tranquillou ici, ils avaient vraiment envie d'aller monter un projet. Et peut-être aussi parce que c'était plus facile. Je vois qu'on l'aura peut-être, Jérôme Maurice d'ailleurs, il vous connaît aussi.
Jérôme Maurice, c'est le boulanger au Canada. Ouais.
Alors lui, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel
c'est l'hôtel en Bolivie, pardon, excuse-moi.
On s'y perd un peu, je suis d'accord.
Il y en a tellement...
Non, et lui, il le dit franchement, il est parti avec une mise dérisoire au Bolivie. Enfin, c'est toi, Michel, qui l'a eu. Et il n'aurait jamais pu monter un hôtel classé monument historique en France.
Il y a des opportunités, c'est vrai. Il y a des jeunes à Shanghai qui ont monté des bars, qui en sont maintenant à 3 ou 4. C'était beaucoup moins cher. Ils n'auraient jamais pu investir la même somme, enfin, pour l'équivalent en France pour monter ces bars. Donc, c'était vraiment une terre d'opportunité là-bas.
C'est fini, l'expatrié d'avant. Tu sais, avant, l'expatrié, c'était le gars qui était envoyé par une grosse boîte, qui partait avec femme et enfant, avec des conditions de rêve, une maison, des billets d'avion pour rentrer voir la famille, un salaire qui était souvent 20 fois le niveau de vie locale, etc.
Il y en a encore.
C'est un peu terminé, ça, non ?
Non, il y en a encore. Le spécialiste qu'on a au début, là, un spécialiste des mobilités internationales, dit que cet expatriation-là n'est pas terminée. Les conditions sont moins avantageuses qu'avant. Enfin, ils sont moins dans le confort qu'on peut l'imaginer. Mais les boîtes envoient toujours des gens, parce que justement, avec la mondialisation, ils envoient souvent quand même des Français pour suivre les affaires de près. Enfin,
ouais. Mais ils peuvent être recrutés avec un contrat local.
Exactement. C'est ce qui se développe de plus en plus, donc moins avantageux.
Ah, c'est moins bien. Bah oui, quand tu es sous contrat indien, c'est moins payé en roupies. Mais bon, ça marche sur place. J'ai un petit tableau sur place que j'ai trouvé qui date de 2012. C'est pas si vieux. C'est le Sénat qui a publié ça sur les Français expatriés. Il y en a quand même un gros paquet, c'est 50%, c'est en Europe. 12,5% en Amérique du Nord, 6% en Amérique du Sud, 13% en Afrique quand même, 8,5% au Moyen-Orient et 2,3% en Asie et en Océanie. Donc quand même, on reste, c'est l'Europe aussi qui a beaucoup attiré. Hein.
Oui, puis la plus grosse communauté, on ne le dirait pas, mais c'est en Suisse. Donc la plus grosse communauté va carrément très près quand même. Ils sont en Suisse, après ils vont en Allemagne, en Angleterre, en Belgique. C'est les quatre premiers pays avant de partir aux États-Unis. Donc on part, mais pas trop loin quand même.
L'Europe, ça reste une expatriation ou c'est à moitié ? C'est un peu... Parce que l'Europe, on peut tous y aller, il n'y a aucun problème, on peut travailler, on n'a pas besoin de papier, on n'a besoin de rien. Est-ce qu'on considère ça encore comme une expatriation ?
Oui, bien sûr. Ouais. Ça peut être exotique, l'Europe aussi, encore.
Ah, bien sûr.
Il suffit d'aller en Belgique, c'est très exotique.
On va en appeler quelques-uns qui peuvent répondre, d'ailleurs, piocher dans le livre. On ira voir, il y a Rosemary, qui est à Madagascar. Steph et Rémi, on les connaît bien, c'est les Mushers en Laponie. Magali en Afrique du Sud. Stéphane, c'est lui qui fait sa boulangerie. Il y aura Jérôme aussi. Enfin, bon, tous, on va essayer de les joindre. Je crois que la première, c'est Rosemary, qui arrive dans un instant. Rosemary, t'es là ? Allô, Rosemary ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Rosemary.
Oui, bonjour.
On arrive dans un instant. Bouge pas, t'es à Madagascar.
D'accord.
À tout de suite. On ouvre le bal avec toi juste après Left Boy, que voici. Back in LA, it's a nice day. Baby, take your top off, come to the right bay. I know what your friends say, but they don't know you're a pill. Just give me one day, I'll teach them girls how to treat. Cause it's 420, 24-7, where I'm at, hun. Cruising down Sunset, lighting up a fat one. Let's make love, I never wanna fight. Baby, we got a shot, we should get it right. Get it right, all right, from the dark to the light. From the back to the middle to the front. Get high, light, light, light. About to get in trouble here, bartender, make it double. Whoop, double decker tour bus, meet me on the top floor. You know the song, baby, try to get my top score. Cause I like your skinny jeans better when they're laying on the ground. And your cashmere sweater's nowhere to be found. I'ma be around, maybe not as often as you'd like, but I think we vibe, girl, we should get it right. I just wanna do you real good, you make me feel good. Baby, let me get it right, to the edge of the night, to the light. I'll make you feel hype. Baby, we should get it right. Get it right, all right. From the dark to the light. From the back to the middle to the front. Get high, light, light it up. Raise that cup. Put your motherfucking ass up. We'll be right back.
Звонили в гостиницу «Туркестан». Дождитесь ответа оператора.
Allô, la planète.
Allô.
Sur le move.
Et donc, nous sommes en studio avec Sandrine Mercier et Michel Fonovitch. Pour le livre « Ils sont partis vivre ailleurs », des portraits d'expatriés. Il y en a 28 dans le livre. On en a quelques-uns au téléphone, dont Rosemary. Donc, Rosemary, à Madagascar.
Oui, bonjour, je suis là.
Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais à Madagascar ?
Donc moi, je m'occupe, j'ai monté une association pour faire du développement créatif auprès des femmes artisanes de malgaches.
Waouh, et ça te permet de vivre, ça, monter une association ? Ça t'offre un salaire ?
Alors,
non.
Je vis. Moi, je gagne pas beaucoup d'argent, mais je vis correctement, voilà. Voilà, on a des subventions, j'arrive à me débrouiller, ça va bien.
Et alors, l'association, exactement, qu'est-ce qu'elle fait pour les femmes ? C'est quoi le principe ?
Donc, le premier but, c'est de développer la créativité, parce qu'ici, à Madagascar, il n'y a pas d'enseignement créatif à l'école, si bien que les artisans reproduisent toujours un peu la même chose, du coup, le marché est saturé. Et moi, je voulais travailler auprès des femmes, parce qu'elles ont un autre problème, c'est qu'elles ne sont pas considérées comme des vraies professionnelles. On considère qu'elles font leur artisanat à temps perdu. Et donc, elles sont complètement sous-payées. Et voilà. Donc, moi, je les aide à créer des nouveaux modèles. Je les aide à gérer leurs gains. On a créé une boutique, une coopérative d'achat, des outils de gestion.
D'accord.
Et puis, ça se passe pas mal.
Ça fait combien de temps que tu t'es installée là-bas ?
Moi, ça fait 5 ans.
5 ans. Et qu'est-ce que tu faisais avant de partir ?
Alors, moi, avant, j'étais responsable de l'action pédagogique dans un musée des Beaux-Arts.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a pris un matin ? Tu t'es dit, j'en ai marre, je veux m'en aller. J'en ai marre.
Il y a eu des choses en même temps. D'une part, j'ai découvert Madagascar en 2005. Je suis venue en 2009. Et puis, je tombe amoureuse du pays. Mmh. Petit à petit, j'ai rencontré des femmes très intéressantes qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne montrais pas une association ici par rapport à ce problème de créativité ? Et puis, parallèlement à ça, moi, j'avais fait un peu le tour de mon poste. Je me suis dit, bon, ben, mon boulot, il est bien, mais je vais faire la même chose jusqu'à ma retraite. Alors, donc, ben, voilà, c'est...
Oui, dans le livre, tu as une bonne phrase là-dessus. Tu dis, je connaissais la fin de l'histoire, je voulais vivre autre chose, voilà. Vivre pleinement. Donc, tu t'es dit, ça y est, c'est réglé. Voilà. Il ne m'arrivera rien d'autre ici. Je vais finir, pouf, on va mettre à la retraite. Et puis, pouf, dans le trou, puis voilà.
Voilà, donc voilà, j'ai envie de vivre une autre vie, quoi. Et puis voilà, servir à quelque chose, créer quelque chose.
Ouais.
Et puis j'avais des bons amis qui m'ont aidé à monter l'association. Et puis on est parti avec pas grand-chose. Mais maintenant, l'association commence à être reconnue et on commence à avoir des aides plus facilement. Donc ça va.
Oui, Sandrine, tu voulais rajouter.
Oui, puis qu'il faut le. Bonjour, salut, Rosemary. Et ce qui est
bonjour,
rare
Sandrine,
aussi,
bonjour.
C'est que. Ben, on s'est rencontrés à Majunga. C'était carrément sur le port. On mangeait des petites brochettes face à la mer. Et Rosemary, ben, elle est partie, elle avait plus de 50 ans. Donc, c'est une bonne patate comme ça qui arrive.
Ah, ça dément l'adage selon lequel il n'y a que les jeunes qui s'en vont. C'est pas vrai, ça. Alors qu'on est jeune à 50 ans, hein, Rosemary.
Dis oui. Bien
dis oui, dis oui. Et qu'est-ce qui te plaît là-bas ? Bon, alors Madagascar, c'était un coup de cœur en 2005, mais là, en vivant au quotidien là-bas, c'est quand même un pays très dur. On a pas mal d'auditeurs qui y vont, qui nous racontent un pays pauvre, avec des disparités énormes, pas simple à vivre. Qu'est-ce qui t'attire, toi, là-bas ?
Oui. Alors, c'est vrai que j'ai plus du tout le même regard que quand je suis arrivée, parce que quand je suis arrivée, quand on est touriste, tout le monde est gentil, etc. Et là, enfin, il y a plein de gens encore gentils, hein, ça passe très bien avec les femmes de l'association. Mais c'est vrai que c'est un pays dur. C'est un pays dur parce que c'est la crise et parce que chacun défend son bout de bras et qu'il y a, enfin, beaucoup de jalousie, beaucoup de. Enfin, bon, c'est pas simple. Et puis, mais je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Mais voilà, les gens avec qui je travaille, ils sont vraiment très, 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 très sympas. Les gens qui m'entourent. Moi, je n'ai pas de problème dans mon quotidien. Ouais. J'ai des problèmes, c'est quand je vais à Tana ou quand je me déplace. Là, c'est pas facile. Hein. Les transports en commun, bon, j'ai pas de voiture, donc c'est pas simple. Mais dans mon quotidien, moi, dans mon quotidien, là où j'habite, ça se passe très très bien. Dans le village, j'ai pas de problème, quoi.
Tu vis plus simplement qu'en France. Matériellement, je veux dire, forcément, quand on vit.
Matériellement, ouais, oui, ouais. Oui. J'ai un petit bungalow. J'habite dans un petit bungalow. Hein, j'ai un petit bungalow, mais moi, ça me va. J'ai un petit bungalow. J'ai pas de véhicule. Ouais. J'ai un scooter un peu pourri. Ce qui me coûte le plus, ce sont les transports en commun, taxi, bus, parce que au niveau de la sécurité, c'est quand même pas évident. Au niveau de la sécurité, je parle des moteurs et des chauffeurs qui sont un petit peu. C'est vrai que la foi est accidentogène parce qu'ils vont doubler n'importe où, n'importe comment, et en se disant bon, si c'est pas mon heure, il n'y a pas de problème, quoi. Et donc ça fait peur. Ouais. Et sinon.
Non, mais ça te manque pas, sais pas, la consommation en France, l'iPhone 6 qui vient de sortir, tout ça, non, ça te touche pas.
Je ne sais même pas au courant. Ah, mais l'iPhone 6. Oui, non, franchement. Ah, par contre, quand même, Internet, ça, c'est très important pour moi. Skype, Skype particulièrement. Voilà, mais sinon, non, ça ne me manque pas. Je suis partie avec une valise, un sac à dos. Je me réinstalle pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est bien d'être léger. Pour moi, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'être léger au niveau des objets, même au niveau aussi de la pression sociale, pression familiale, tout ça. Alors, moi, je suis un peu dégagée de tout ça, sans l'être complètement, mais je trouve ça agréable.
Une dernière chose, qu'est-ce qui était, à ton avis, le plus important dans le déclic qui a fait que t'es parti ? Est-ce que c'est toi, ton envie personnelle de changer, de faire autre chose, de vivre une aventure, ou cette envie d'aider les femmes à Madagascar ? Tu vas me dire, c'est un mélange des deux, mais le tout premier moteur, c'est soi-même ou... Quand même, non ?
Sans projet, je ne serais pas partie, je pense pas. Ah. Sans projet, je ne serais pas partie. Donc, c'est quand même l'idée de monter quelque chose d'efficace et puis de sympa. Je ne serais pas partie comme ça pour rien. Partir pour partir, je pense pas que ça m'intéressait pas. La France, j'aime bien. Hein, j'ai pas de...
Oui, c'est pas une fuite.
Mais là, c'était vraiment de monter un nouveau projet. Nécessaire.
Rosemary, merci beaucoup.
De rien.
À une prochaine fois. Ils sont là tous les deux, Sandrine et Michel.
Je connais pas Michel, mais je connais bien Sandrine.
Merci.
On t'embrasse très fort. T'es à Majunga là ?
Oui, je suis à Majunga. Je suis chez moi, sur ma petite terrasse. Où j'habite.
Ah oui, c'est bien là-bas, Sandrine.
Mais je sais pas, c'est bien, mais elle disait un truc marrant avec ses petits voisins, c'est que les femmes et tout venaient chez se croyaient chez Rosemary comme chez elle. Donc elle mettait la main dans son sac et tout ça, il y avait une sorte de proximité qui était assez difficile au départ à mettre des distances avec les femmes.
Ah ouais.
Oui, j'avais un petit problème d'intimité, mais j'ai résolu ça. J'ai mis des barrières,
mentales,
des barrières fictives. Ouais. Voilà. Donc maintenant ça va, parce que je pense qu'il faut être clair. Hein, y a des choses qu'on ne supporte pas. C'est vrai que je peux pas accepter que tout le monde vienne chez moi toutes les 5 minutes. Mais donc bon, du moment où on est clair, je pense que ça se passe pas trop mal.
Rosemary, il faut qu'on y aille, on a beaucoup de monde à appeler. Merci beaucoup, voilà. En tout cas, puis à très bientôt, et une prochaine fois.
Je vous dis au revoir.
C'est Rouge Baiser, l'association Rouge...
Rouge Beauté.
Il y a un site internet, oui, bien sûr, on va mettre les liens.
Si vous
avec...
tapez Rouge Beauté Madagascar, vous trouvez le blog.
On met les liens.
La page Facebook.
Ne t'inquiète pas, on met les liens sur notre page à nous et sur lemouv.fr. Merci Rosemary, à bientôt.
D'accord. Au revoir, bonne journée.
On va poursuivre dans un instant avec tout à fait autre chose. Est-ce que dans tout ce que vous avez rencontré, la démarche humanitaire, souvent il y en a qui font ça, comme ça, qui partent pour des ONG, qui finalement s'installent, l'un et l'autre.
Ben oui, on a Fadi. Alors lui, il fait de la reforestation dans Pro Natura au Mexique. Donc effectivement, il est très engagé dans tous ces problèmes nature. Il y a Shani qui lui va sauver des gibbons sur l'île de Bornéo. C'était vraiment sa passion. Il s'est installé là-bas. Il est devenu un Indonésien en mariant une femme du coin. Et là, il a vraiment monté des gros projets pour sauver les gibbons. Il y a aussi Magali en Afrique du Sud qui s'occupe.
On va l'appeler
Magali. Il y a Stéphane aussi en Afrique. Voilà. En gros, Poirot, on en a pris 4. Et puis Rosemary, là, quand même, qui a créé une ONG. C'est vrai que ça fait partie
des motivations,
des ressorts.
Pas du tout. Steph et Rémi qui sont là. Rémi, bonjour Rémi.
Oui.
Ça va, ça faisait longtemps, Rémi. Il a fallu qu'il y ait un livre sur toi pour qu'on se rappelle, dis donc.
Ouais, bah tu vois, tu penses même pas à moi.
Oh, ça y est, c'est mon faute.
Mais ils font la couve, en plus, ils font la couve.
Ils sont sur la couverture du livre. Ah oui, c'est vrai, ils sont sur la couverture.
Mais tu les connais pas, hein. Avec ces grosses lunettes sur la tête.
Bah, on va rappeler l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là. Donc vous êtes, alors là, de Madagascar, on remonte tout droit, et on arrive en Laponie, c'est là où vous êtes installé. Ça fait combien de temps que vous vivez en Laponie?
Ça fait 4 ans depuis le 20 septembre, donc il y a quelques jours.
4 ans, il faut quand même rappeler le décor, vous êtes mais dans un endroit quasi désertique, enfin il n'y a, y a rien, il y a vous et c'est tout, non? Il y a des chiens.
Il y a nous et les chiens. On est, bah nous on est dans une région, en fait il y a un habitant au kilomètre carré.
Waouh. Tu te rends compte? Attends, on assimile, on essaye d'imaginer l'information, un habitant au kilomètre carré. Bonjour, ça va. Ouais, bon, d'accord. Un habitant au kilomètre carré, ça veut dire que vous vivez dans un... Enfin, c'est même pas un village là où vous habitez, hein. Il y a ta maison et puis la forêt.
Voilà, ouais, ça, bah, c'est un tout petit village, il y a une autre maison, on a un voisin, mais c'est une maison de vacances, donc il vient deux fois par an. Mais sinon, voilà, il n'y a que nous, la forêt, et puis... on va dire la première petite ville est à de 500 habitants et à 25 km. Quoi.
Donc 25 km, il y a une route quand même.
Pas en bitume, mais ouais.
Ah bah d'accord.
Ouais, il y a une route.
Donc, question idiote, pour le ravitaillement, tout ça, faut tout prévoir d'une semaine sur l'autre ou de tous les 15 jours, je ne sais pas combien de temps vous allez faire les courses.
Mais... Nous, on essaie de faire des grandes courses. Donc il y a Luleå, on va dire la grande ville, qui a une heure et demie. Et on y va une fois hors saison d'hiver, on y va une fois par mois. Et c'est sûr qu'il te manque quelque chose, tu fais pas 50 km aller-retour pour une baguette de pain, quoi.
Ouais, donc tu te passes. Voilà.
Tu fais ton pain.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce qui a... Rappelez-nous votre histoire, si je me souviens. Donc vous êtes musher, ça veut dire éleveur de chiens de traîneau.
Voilà.
Rappelle-nous l'histoire, comment ça a commencé tout ça. Vous étiez au Canada, non, au début, si je me souviens bien.
Ouais, voilà. Donc moi et Steph, on s'est rencontrés en saison d'hiver à la Plagne. Après, on est parti un an au Canada. Et c'est là qu'on a appris le métier de musher. On est parti dans le Grand Nord canadien, donc à Churchill, en Ontario. Et là, on a travaillé pour des compagnies de chiens de traîneau.
Ouais.
Et après, en revenant du Canada, nous, on avait pour projet de repartir au Canada ou de chercher du travail dans ce milieu-là. Et en mettant une annonce sur un site internet France Mushing, donc c'est un site internet en France.
Ça existe donc.
Pour tout ce qui est mushing, tu peux acheter des chiens, des cartes d'entraînement, des traîneaux, tout ça. On a mis une annonce pour trouver du boulot et puis il y a quelqu'un qui nous a appelé pour s'occuper donc de la meute de chiens en Laponie, en Suède. Et donc au départ, c'était juste pour un hiver. Et puis au final, ça a fini qu'on a tout racheté, les chiens, on a acheté une maison et puis on s'est installé ici. Voilà.
Ce n'est donc pas une fuite non plus, votre histoire. C'est pas une fuite, vous ne fuyez pas la France, vous ne fuyez pas la crise, c'est juste une envie, un besoin.
Oui, voilà, ouais, c'est une envie, de bouger, de voir un peu autre chose. Après, non, sur la France, peut-être pas à ce point-là, on va dire. Après, c'est vrai que, en voyageant, moi, je me voyais... plus vivre au Canada ou après je connaissais pas la Suède, même en Suède c'est un peu la même mentalité quoi. Les gens sont plus cool, c'est beaucoup moins de stress. Bah, forcément il y a beaucoup moins de monde aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins de stress qu'en France et ça nous plaisait un peu plus quoi. Avec Steph, c'est vrai qu'on est revenu en France, on voulait quand même repartir assez vite quoi.
Mais c'est pas stressant la perspective de l'hiver qui arrive là?
Il y a un coup de fil. Non, c'est lui. C'est lui en Laponie. Non, l'embêtez pas, il y a un coup de fil par an, donc laissez-le prendre son coup de fil.
Ouais, c'est bon.
C'est bon?
J'ai raccroché.
Okay. En plus, il raccroche. Oh là là, on est désolé. Non, dis-moi, parce que alors la question qui se pose, évidemment, c'est tous les deux dans une maison avec des chiens paumés. Ça se passe bien, la cohabitation, vous avez une chambre chacun, vous avez des endroits pour vous isoler, quand t'en as marre, tu pars en courant dans la forêt, enfin comment ça se passe, la vie de couple?
On s'est pas encore entretués.
Bon, c'est bien.
Non mais ça se passe bien, après c'est vrai qu'il y a des périodes, on va dire, plus difficiles que d'autres. L'hiver, on a beaucoup de clients, l'été, on commence à en avoir aussi, donc ça se passe bien. Là, c'est un peu, on va dire que c'est un peu l'automne où le temps est un peu long. Là, c'est vrai qu'on est vraiment que dans les chiens, l'entraînement des chiens, tout ça. On a des amis ici, mais là, on n'a pas trop le temps de les voir. Mais sinon, ça se passe quand même bien. Bah, après, bah, faut apprendre, c'est sûr qu'à... c'est pas évident au début, puis après bah, t'apprends à vivre avec quoi.
La motivation, donc Rosemary qui était avec nous tout à l'heure à Madagascar, et clairement elle voulait un changement de vie quelque part, arriver à la cinquantaine, elle s'est dit il faut que je fasse autre chose. Vous, c'est pas ça du tout finalement, c'est votre métier et chercher un environnement qui vous corresponde.
Ouais, ça a été plus une comment dire, moi si tu veux, quand je suis arrivé à Churchill, donc c'est dans la baie d'Hudson dans le Manitoba au Canada, j'ai vraiment découvert le Grand Nord, les grands froids, les moins 30, les chiens. Et en fait, je suis tombé amoureux de ça tout de suite, quoi. Au bout d'une semaine, et même Steph aussi, on était dans un bed and breakfast et on était, ah ben voilà, c'est ça qu'on veut faire, quoi. C'est plus une découverte, on est tombé amoureux de la chose. Et maintenant, c'est vrai que je me verrais plus passer un hiver sans neige et sans froid, quoi.
Bon, voilà. Et tout va bien, vous êtes heureux, vous n'avez pas des envies de retour?
Non. Après, ça fait du bien quand même de rentrer en France, voir la famille. Il y a nos parents aussi qui montent, on a des amis qui viennent. Mais non, après, on est bien ici. Puis c'est vraiment ce qu'on cherchait, je pense. Donc ça fait... Non, pas envie de retourner en France. Puis bon, on écoute un peu la radio.
Oui.
un peu. Ça donne pas envie pour l'instant.
Rémi, merci beaucoup. On passe te voir. Donc si on a envie d'aller faire une expédition chez toi, passer quelques nuits au milieu de rien.
Ouais, voilà, découvrir les chiens. Et... faire des randonnées en traîneau, puis découvrir un peu la vie là-haut dans le Nord, quoi.
Et puis il y aura Stéphanie qui sera là le 2 octobre. On va faire une rencontre signature à la librairie de Voyageurs du Monde, rue Sainte-Anne à Paris. Et il y aura quelques personnes qui seront sur Paris dans le livre. Et Stéphanie sera là pour parler de son expérience et de votre expérience en Laponie.
Elle va t'abandonner avec les chiens, tu te rends compte.
Ouais, pareil, elle me laisse toute seule 15 jours.
Ah mais c'est ça le secret. Bon Rémi, merci beaucoup. Merci, à la prochaine fois. Salut,
merci à vous.
Bonne chance, bonne continuation.
Allez, bonne journée.
Dans un instant, ce sera Stéphane au Mali. C'est sa camarade? Oui, c'est ça, je crois. Juste une question à tous les deux, parce que dans le livre, à la fin, il y a toute une série de conseils ou d'avis que vous avez glanés à droite à gauche sur l'expatriation. Il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'il faut bien peser sa décision, dites-vous. Il faut être raisonnable, en fait. Il ne faut pas partir comme ça. Il faut,
ouais, il faut
réfléchir. C'est ça, ce qui ressort de tous ces entretiens, c'est que pour que ça marche, il faut...
Ouais, et puis il ne faut pas partir en râlant. Il y en a qui disent « Ouais, la France fait chier, on paye des impôts, on ne peut rien faire, la vie est moche, ouais. Il fait gris. » Enfin, ceux qui partent comme ça dans cet esprit, je dirais un peu négatif, souvent ce sont ceux pour qui ça se passe le plus mal. En fait, il faut vraiment y aller effectivement déjà dans un esprit un peu positif, ouvert, ouais. et vraiment d'y aller pour un projet, pour quelque chose qui vous anime vraiment, quoi, et pas partir pour un ras-le-bol de la France.
Même si quand on part avec des problèmes, on les emmène avec soi, c'est ce qu'on dit souvent. Et puis, où qu'on aille, on les retrouve.
Non, puis sur place, après, il faut, c'est important de partir avec un esprit positif, parce que sur place, tout ne se passe pas toujours très bien. Il faut bosser, quoi. Il faut avoir de l'endurance, il ne faut pas se décourager. Et on parlait avec Stéphanie et Rémi tout à l'heure. Quand ils sont arrivés en Suède, quand même, ils connaissaient les chiens, mais ils ne connaissaient pas tout sur les chiens, quoi.
Ouais,
et donc, ils ont dû apprendre sur le tas, ils ont un peu bavé quand même. Donc, il faut tenir le coup et passer le cap, quoi.
Il y a Jean-Luc Cerdin, tout au début du livre, c'est un peu notre sociologue, là. Il parle d'intelligence culturelle. Il dit que les gens qui partent et qui réussissent à l'étranger ont cette intelligence culturelle, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'adapter à des identités différentes, mais surtout, ils sont capables aussi de faire comprendre aux autres ce dont eux, ils ont besoin. Enfin, c'est un truc qui va dans les deux sens.
D'accord,
et que pour avoir ça, quand même, il ne faut pas partir en étant déprimé, en se disant... à quel point j'en ai ras-le-bol de ma vie, quoi. Il faut vraiment partir avec cet état d'esprit de se dire je vais essayer de me faire comprendre et je vais comprendre les autres et je vais essayer d'infléchir ce que pense l'autre de moi pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble, quoi. D'intelligence culturelle.
Il faut, quand tu dis faut préparer son départ, ça veut dire aussi, et ça c'est un peu dommage, mais il faut pas partir comme ça la fleur au fusil en disant bon bah je vais aller au Brésil et je verrai sur place. C'est possible, mais c'est plus...
C'est sûrement possible. Je pense qu'il y en a qui doivent y arriver, quoi. Mais non, dans notre cas, ils ont tous un projet, ou ils ont plutôt la tête sur les épaules et ils ont réfléchi, quoi.
Dans un instant, Stéphane qui est au Mali. Stéphane, t'es là ?
Oui, je suis là.
Bonjour, bienvenue dans l'émission, Stéphane. On va mettre un disque, on se parle dans un instant. Toi, t'es installé à Bamako.
Tout à fait.
Tout à fait. Et avec toi, il y aura peut-être Magali en Afrique du Sud et Jérôme qui est, je ne sais plus où. Ah oui, en Bolivie, Jérôme. Ah oui, oui, oui. Et il y a aussi notre ami Stéphane, notre Stéphane qui est devenu boulanger au Canada. C'est bien, j'aime bien son histoire. On l'avait déjà eu aussi dans l'émission. Il était bien, il avait tout réussi, cadre sup, la Mercos, la maison au Vésiné. Et puis du jour au lendemain, j'en ai marre, je vais aller faire des croissants au Canada. J'aime bien ce genre d'histoire. C'est Allô la planète. On parle d'expatriés avec Sandrine Mercier et Michel Fonovitch pendant une heure pour leur livre. Ils sont partis vivre ailleurs.
Planète sur Internet, le premier réseau vivant.
Et nous poursuivons aujourd'hui une heure avec Sandrine Mercier et Michel Fonovitch pour le livre « Ils sont partis vivre ailleurs ». C'est chez La Martinière, un livre qui nous offre 28 portraits de Français qui se sont expatriés. On le disait tout à l'heure, la motivation, elle doit être positive. Juste avant d'aller au Mali, je vous demande à tous les deux, il y a aussi un côté quand même, il faut bien préparer tout ce qui est administratif, protection sociale, l'école des enfants, s'il y en a. Ça a l'air de rien, mais... En lisant ce que vous disiez, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'en France, on est habitué à être bordé dans tous les sens. On a tout gratuitement ou à peu près, on a la sécu, on a l'école, on a tout. Arriver ailleurs dans le monde, ça se prépare pour ça aussi. C'est,
bah oui, c'est oui, non, c'est... Et puis des fois, il y a des drôles de surprises. On sait qu'aux États-Unis, par contre, ça coûte vraiment bonbon quoi, d'avoir une assurance. Rien n'est donné comme ça, donc ça coûte cher. Et je vois Carole qui est à Macao, quand on s'est vu là, elle m'a dit, bah, moi, ça fait un an, j'ai zéro assurance. Quoi. Ouais, ça s'est éteint, il faut qu'elle retrouve quelque chose. choses. Ils sont donc toujours un peu borderline. Après, pour les écoles, effectivement, si on a Stéphane Besançon, il va nous raconter, parce que lui, il a des enfants. Il y a des écoles françaises maintenant dans toutes les capitales.
Ouais, mais elles sont chères. Alors, les fameux lycées français, je fais juste une petite parenthèse, ce ne sont pas des lycées de la France. C'est des lycées privés. Et souvent, c'est très cher.
Il faut payer. Oui, c'est vrai.
Beaucoup.
Mais oui, c'est vrai, la protection sociale, les assurances, tout ça, ça fait partie. Il faut bien qu'il y ait quelques petites difficultés, des petits lots quotidiens un peu à s'occuper. Voilà. Il ne faut pas que ce soit tout beau, tout rose quand même.
Non, donc ne vous faites pas d'idée, la France ne vous suit pas où que vous alliez. Voilà, c'est tout. Tu ne peux pas. Voilà, le beurre, l'argent du beurre et tout ça. Stéphane, donc avec nous à Bamako. Bonjour Stéphane, bienvenue dans l'émission.
Bonjour, merci beaucoup.
Quand j'ai regardé ton parcours, c'est assez étonnant. Au départ, tu étais semi-professionnel de hockey à Grenoble. Donc voilà, on t'imagine sur une patinoire, tout ça. Et te voilà t'occupant du diabète au Mali. Comment on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé?
On passe de l'un à l'autre déjà parce qu'à un moment, le hockey sur glace en France, à moins d'être vraiment dans les tout meilleurs, c'est un peu difficile d'en vivre. Et je faisais des études à côté. Donc à un moment, il y a juste un choix entre une carrière professionnelle hors sport ou une carrière professionnelle sportive. Mais qui n'est pas forcément très très facile à mener en France. Voilà, c'était juste ça. Ouais. Clairement, comme beaucoup de sportifs, j'ai arrêté pour continuer l'autre branche qui était la branche que je suivais avec mes études.
Qui était donc
En fait, j'ai un parcours de biologiste à la base, mais après je voulais faire du développement, donc international, et j'ai fait une formation de nutrition et puis de politique de développement plus globale. Voilà, donc prépositionné pour travailler sur les pays en développement, mais à la base sans savoir exactement où et dans lequel j'allais travailler.
Alors comment et quand s'est faite cette rencontre avec le Mali? C'était il y a longtemps? Ça fait longtemps que tu es installé là-bas?
Ouais, c'était en 2000, c'est il y a très longtemps, je ne me rappelle même plus du coup. C'était en 2000, j'ai fait mon stage de fin d'études avec le Centre de recherche agronomique sur le développement. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré le diabète, parce que j'ai travaillé, j'avais un sujet de recherche sur le diabète. Voilà, donc en 2000, et puis de là est partie l'aventure avec l'ONG Santé Diabète après coup, quoi.
D'accord. Et le Mali, c'était un hasard? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un peu comme les boules dans un slipper. C'est un peu d'une rencontre à une autre, à une autre, à une autre. Et puis là, c'était une proposition de stage. Le sujet était intéressant. Le pays semblait intéressant parce que je connaissais pas. Et puis voilà, donc je suis parti une première fois. Et puis oui, tout était très intéressant. Donc je suis revenu. Et puis de projet en projet, les choses se sont installées.
Et alors là, maintenant, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu travailles pour une ONG? Tu as un cabinet médical? Tu travailles dans la recherche? Qu'est-ce que tu fais?
Non, je suis directeur d'une ONG française qui s'appelle Santé Diabète, qui ne travaille pas que sur le Mali. D'ailleurs, moi, j'ai un poste délocalisé là à Bamako, mais qui travaille aussi sur le Burkina, sur le Sénégal. Puis on a d'autres projets d'appui à d'autres gouvernements, aux Comores et ailleurs. Donc qui travaille sur tout ce qui est structuration du système de santé pour la prise en charge du diabète. Donc en appui aux États et au secteur de la santé dans le pays.
Tu as une remarque qui est assez terrible dans le livre à propos du Mali et du diabète. Tu dis c'est une maladie qui existe ici, mais qui n'intéresse personne parce qu'elle n'est pas rentable pour les laboratoires. C'est fou ça.
Elle n'est pas rentable pour les laboratoires et elle n'est pas sexy pour les bailleurs de fonds. Donc on est entre les deux. Donc on a des bailleurs de fonds qui disent non, le diabète en gros c'est une maladie des riches et qui veulent garder une image très tiers-mondiste des pays. Donc ça c'est le côté gauche. Donc en disant bon, c'est pas très intéressant à financer. Derrière la malnutrition et d'autres choses, c'est plus sexy j'allais dire. Et puis de l'autre côté on a les labos qui n'ont pas une grosse rentabilité sur les pays. Donc ils ne font pas beaucoup plus d'efforts. Donc on est coincé entre les deux. Enfin c'est pas nous d'ailleurs, les malades plutôt, c'est assez terrible, et on est un peu coincé entre les deux, et avec une épidémie de diabète, enfin épidémie au sens, c'est pas infectieux, mais au sens de l'ampleur de la problématique, et on n'a pas grand monde qui répond, du coup la situation pour les malades est assez chaotique, mais pas qu'au Mali, sur l'ensemble de l'Afrique.
Ton statut à toi, alors du coup, tu es quoi? Tu es salarié d'une ONG française, c'est ça?
Tout à fait, oui, je suis travailleur expatrié.
D'accord. Donc tu as un contrat français, un salaire français et tout ça.
Alors j'ai un contrat expatrié, c'est-à-dire que c'est un contrat de droit français, mais qui spécifie l'expatriation, c'est-à-dire que je sors du régime français pour rentrer sur le régime des Français expatriés, pour être technique. Ouais. Ça rejoint votre discussion tout à l'heure par rapport à la sécurité sociale, les trucs, donc je suis rattaché sur le régime des expatriés. Voilà, après j'ai un salaire, ben, un salaire d'ONG, hein, c'est à peu près, enfin, après il y a des grilles ONG, il y a des choses, mais on n'est pas sur les, j'allais dire, on n'est pas sur les grilles des expatriés secteur public ou entreprise, etc. Mmh. Et après, pour voilà, donc
tu fais pas fortune, mais tu fais pas fortune, mais tu vis bien, j'imagine quand même, non?
Voilà, tout ouais, à fait.
Par rapport au niveau
oui, c'est un, oui, c'est une très bonne définition.
Ouais, mais non, mais non, mais avec le même salaire en France, ce serait compliqué. Là-bas, ça marche, quoi. C'est un peu ça l'idée.
Oui. Mmh. Non, je, pour les oui, puis les ONG fournissent quand même pas mal d'avantages. Les salaires sont pas exorbitants, mais les ONG fournissent pas mal d'avantages, ce qui fait qu'à la fin, on s'y retrouve très bien. Voilà, la quantité de travail. Alors après, ça dépend si on ramène ça à ce qu'on gagne ou à la quantité de travail. Parce que c'est vrai que quand vous êtes travailleur d'ONG, c'est pas, même si le contrat devrait spécifier 35 heures, on est largement au double facilement, plus 70 qu'à 35. Mais après, c'est un choix de, c'est un choix aussi.
Tu t'es bien installé au Mali, j'ai vu. Tu es marié maintenant, tu as deux enfants.
Tout à fait.
Ouais. Ouais. La différence de vie avec la France, tu as cette réflexion aussi dans le livre. Tu dis en France, on a toujours l'impression que tout va mal. Au Mali, ça permet de relativiser un petit peu.
Oui, bah, disons, bon, bah, vous en parliez tout à l'heure, j'entendais en attendant vos échanges avec Sandrine. C'est vrai que sur les questions de scolarité, sur les questions de sécurité sociale, sur les questions de beaucoup de choses, souvent, on se rend, quand on est à l'extérieur, dans des pays où les systèmes publics répondent assez mal, on prend conscience de la chance qu'on a en France sur l'accès à la santé, sur l'accès à l'éducation, sur énormément de choses, parce qu'il y a un système public qui fonctionne. Dans des pays où il fonctionne difficilement, et ben, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc ça permet de... Ça permet de relativiser aussi sa situation personnelle de Français quand on entend souvent des... que c'est un peu marasmique en France. Et quand on voit d'autres pays, on se dit que peut-être les gens, des fois, devraient relativiser un peu.
Ta femme est malienne. Pour l'éducation des enfants, comment vous faites? C'est double culture, double langue, double tout? Il y a une culture qui prend le pas sur l'autre? Comment ça se passe?
Non, alors c'est double passeport déjà.
Ah oui, oui.
C'était un prérequis. On est tous très attachés à la double nationalité. Pour ce qu'elle représente aussi, hein, c'est-à-dire double nationalité, c'est ce que vous disiez, ça veut dire double culture, et ça veut dire il n'y en a pas une qui prend sur l'autre, on essaye d'adapter au fur et à mesure, enfin d'extraire un peu le meilleur de chaque côté. Alors c'est pas toujours très facile pour essayer de trouver un entre-deux.
Ouais.
Et c'est pas simple, hein, la biculturalité comme ça, c'est jamais très simple, mais c'est assez enrichissant et ça permet d'avancer et d'apprendre pour chacun, en fait.
Juste une dernière chose, toi en Afrique, tu te sens bien ou tu as des regrets sur l'Europe, toi-même? C'est compliqué de vivre en Afrique, dans un pays comme le Mali, surtout aujourd'hui avec le conflit dans le Nord, l'intervention française, tout ça?
Ouais, on a connu pire, hein. Je veux dire, là, c'est ce que je dis, au moment où je disais à Sandrine, là, ça s'améliore, parce que moi, je suis resté en ce qu'on appelle les essential staff, c'est-à-dire les derniers qui étaient sur le terrain une fois que tout le monde était parti pendant le coup d'État, pendant le Nord, sinon on avait des équipes sur le Nord en plus. Donc là, je peux dire que par rapport à 2012, là, on est un peu relax, parce que 2012, c'était très tendu. Ça dépend sur quoi. Des fois, il y a des choses qui sont mieux ici, il y a des choses qui sont mieux en France, mais je pense qu'après, quand on s'expatrie, on ne peut pas avoir que du positif d'un côté, donc on fait un peu l'entre-deux, mais la vie au Mali est très agréable dans l'ensemble.
Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. Merci d'être passé nous voir. Salut, à bientôt.
Merci,
oui,
à bientôt.
Oui, j'accélère un peu parce qu'il y a du monde, le temps file. Jérôme est avec nous, on en parlait tout à l'heure de Jérôme en Bolivie. Bonjour Jérôme, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Bienvenue. Tu le sais, je suis avec Sandrine et Michel, les auteurs de « Ils sont partis vivre ailleurs », livre dans lequel il y a ton portrait. Tu es en Bolivie depuis combien de temps ?
Je suis installé en Bolivie depuis 5 ans et demi à peu près.
Toi, l'expatriation, c'est une histoire de famille et de culture, si j'ai bien compris. Tes parents vivaient en Afrique. C'est quelque chose... C'est génétique, l'envie de partir ? Tu crois, l'environnement a joué ?
Génétique, ça je sais pas, mais on va dire que ma famille, non, mes parents sont partis et ont eu une vie d'expatriés. Mes grands-parents ou autres n'étaient pas forcément, ils ont voyagé également, mais on va pas dire que c'était expatriés sur des longues périodes. Non, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que c'est le fait d'être né en Afrique, d'avoir toujours été en mouvement et quelque part, je pense à quelqu'un qui est né dans un pays, qui a toujours vécu dans le même pays. Personnellement, je me sens pas attaché particulièrement à un endroit précis.
Il faut dire que juste avant, tu as fait un tour du monde en scooter. Hein ? Allô ? Allô, allô ? On l'a perdu, Jérôme. Jérôme ?
Alors, oui.
Oui, j'en étais au tour du monde en scooter. Tu as fait un tour du monde en scooter, combien de temps ?
Tour du monde pendant 3 ans, entre 2001 et 2004.
Et est-ce qu'on peut dire que tu t'es installé en Bolivie parce que justement, tu as trouvé que c'était le coin le plus beau du monde de tout ce que tu avais vu ?
Le coin le plus beau du monde, je sais pas, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Bolivie, notamment la partie Altiplano, recèle avec le Salar de Uyuni un des endroits qui m'a le plus fasciné, en tout cas en lieu naturel. C'est vrai que la Bolivie, pendant le tour du monde, ça a été avec le Pakistan les deux pays qui nous ont le plus plu. On avait l'idée de s'installer, on va dire à peu près à la moitié du parcours. Et c'est vrai qu'on s'est dit, la Bolivie présente plein d'avantages, avec un fort potentiel touristique, très peu connu, une population accueillante, et puis surtout un mode de vie qui me rappelle, en tout cas pour la partie où je suis ici, un peu l'Afrique, à savoir on vit au jour le jour, on profite de la vie et on se préoccupe pas forcément trop du lendemain.
Alors, tu as monté un hôtel donc en Bolivie, c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu faire en France, parce que quand on regarde ton histoire, tu l'as monté un peu avec un peu d'argent à toi, des copains, la famille, tout le monde a mis un peu au pot, et ça s'est fait comme ça. Tu l'as fait aussi là-bas parce que ce n'était pas possible en France ?
Oui, en France, c'est même pas que c'est pas possible, c'est que j'aurais même pas pu le rêver. C'est-à-dire que simplement, par rapport au terrain que j'ai pu acheter ici, en France, c'était même pas. Je pense que même la valeur du terrain et de l'hôtel ici, j'avais même pas un terrain en France. Donc, il y a la partie économique, et puis après, il y a la partie administrative où globalement, c'est moi qui ai fait les plans de l'hôtel, j'ai mené les travaux, et c'est quelque chose, je pense, en France, qui n'aurait pas été possible.
Petite anecdote marrante, tu as des employés qui travaillent pour toi dans ton hôtel. Tu as remarqué qu'il y avait un problème avec eux, c'est qu'ils te lâchaient du jour au lendemain sans prévenir, ce qui est embêtant quand même. Et du coup, pour les garder avec toi, tu as créé une sorte de fonds social.
Alors, c'est un double objectif. Le fonds social, ça a été une façon effectivement de mettre... Alors, la première idée, c'était de mettre des sous de côté. Parce que ce qui se passe, c'est que, comme je disais avant, les gens pensent et vivent au jour le jour. Mais ça veut dire que... Quasiment, quand on leur donne le salaire en fin de mois, en règle générale, 5 jours après, ils n'ont plus de sous. Ils le dépensent. Dès qu'ils ont de l'argent, ils le dépensent. Et du coup, dès qu'il y a un coup qui arrive dans la famille...
Et donc, ils revenaient régulièrement pour me voir et me demander ce qu'on appelle un adelanto, etc. Donc le fonds social, c'était une façon de mettre des sous, donc leur argent de côté. C'est moi qui le gère et donc tous les mois, je leur fais le point de ce qu'ils ont. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était un avantage parce que on est comme les gens vivent au jour le jour, ils vous quittent sans préavis, sans vous prévenir. Et du coup, on se retrouve, notamment quand on est à un hôtel, avec les clients et puis avec pas d'employés. Le fait d'avoir le fonds social, ça crée un peu un attachement. Et c'est vrai que sur les 2-3 premières années, ça a été le gros souci des employés qui venaient, qui partaient. Et au fur et à mesure, alors je pense que c'est un ensemble, c'est peut-être mieux habitué au mode de travail. Peut-être qu'eux ont un peu mieux compris notre façon de travailler également. Et c'est vrai que là, depuis à peu près un an, j'ai enfin des salariés qui sont stables. Et au final, ce fonds social, c'est quelque chose qui sert beaucoup parce que dès qu'ils ont un problème ou quoi que ce soit, ils viennent et ils ont un capital qui est disponible pour que ce soit pour eux ou pour leur famille.
Une dernière chose, parce que le son n'est pas très bon, là, c'est dommage. Une dernière chose, la Bolivie, aujourd'hui, c'est un pays qui vit une forme de dynamisme économique. C'est quelque chose que tu ressens, ça ? Ça bouge beaucoup, là-bas ?
Ça bouge énormément, oui.
Pour moi, on est dans une phase de transition, assez forte. C'est un pays qui bénéficie, d'une conjoncture internationale assez très favorable, notamment avec tout ce qui est ressources, les minéraux, le gaz, le pétrole. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'argent, même si c'est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud. La conjoncture actuelle fait que le gouvernement a beaucoup d'argent, avec notamment également une partie la nationalisation de certaines entreprises, qui lui permet d'avoir ce qu'on appelle des régalias plus importantes, notamment sur le pétrole et le gaz. Et donc c'est un pays qui est, on le voit quand on se balade par exemple à Santa Cruz, ça construit de partout. Alors le côté un petit peu moins, c'est également qu'il y a une forte bulle économique qui est liée au narcotrafic. Donc ça c'est la partie un peu plus sombre. Alors concrètement ici, nous on voit pas du tout ça, il n'y a pas de problème d'insécurité ou autre, mais la bulle du narcotrafic est.
Et en tout cas, Jérôme, tu fais partie des 1356 Français qui sont installés en Bolivie. Donc effectivement, il n'y en a pas des tonnes.
C'est pas nombreux, non.
Mais ça va peut-être augmenter.
Jérôme, on s'arrête là. Le son part et revient. En tout cas, je garde précieusement tes coordonnées. On se rappellera plus longuement un autre jour dans l'émission. D'accord ?
Et on met d'accord, pas de problème.
On met un lien avec ton hôtel. Vous allez en Bolivie, vous allez voir Jérôme de notre part. Vous aurez un café gratuit. Voilà, c'est un engagement. Salut Jérôme, à bientôt. Bye. On retraverse l'Atlantique dans l'autre sens pour retrouver Magali qui est en Afrique du Sud. Bonjour Magali, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Bonjour Magali.
Magali qui vit à Johannesburg. Ça fait longtemps Magali ?
Ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'habite à Johannesburg.
Waouh. Et alors explique-nous ce que tu fais là-bas. Toi aussi, tu travailles dans l'humanitaire.
Oui, en fait, je dirige une association qui s'occupe d'enfants orphelins ou en situation vulnérable dans les zones rurales sud-africaines. Donc, en dehors des grandes villes et notamment de Johannesburg, on est spécialisé sur les zones rurales qui sont au-delà des sentiers battus, en fait.
Alors, toi, tu es expatrié. Quel est ton statut là-bas ? Tu travailles pour une association sud-africaine ? Tu es salarié d'une ONG française ? Comment ça se passe ?
Alors, moi, je suis... En fait, c'est moi qui ai fondé l'association, donc Children of the Dawn, les enfants de l'aurore en français. Mmh. Donc, c'est une association de droit sud-africain. Et donc, j'habite ici comme résidente permanente. Et je suis mariée à un Sud-Africain et nous avons deux enfants qui sont binationaux.
D'accord. Donc ton salaire, tes conditions sociales, tout ça, c'est Sud-Africain ?
Oui, tout à fait. La seule différence avec un Sud-Africain, un citoyen, c'est que je ne peux pas voter parce que je n'ai pas la nationalité. Je pourrais la demander maintenant et je commence à me pencher dans ce côté-là, sur ce côté-là. Mais sinon, oui, je suis aux conditions sud-africaines, bonnes et rudes, ça dépend des jours.
Tu racontes dans le livre avoir découvert dans les zones rurales en brousse donc une situation épouvantable, des enfants malades du sida, livrés à eux-mêmes, sans parents, rien à manger, vivant sur des paillasses, complètement abandonnés. C'est toujours la catastrophe en Afrique du Sud, le sida.
Oui, en fait, c'est ce qui m'a poussé à créer l'association. Donc ça, c'était des situations qui étaient quand même beaucoup plus... qu'on voyait plus il y a une dizaine d'années. Maintenant, il y a quand même beaucoup de progrès dans le traitement de la maladie, puisque là, c'est maintenant le programme de prise en charge de la maladie du sida le plus important au monde. Et puis aussi au niveau des allocations familiales qui existent. Donc il y a quand même des gros progrès de ce côté-là. Mais c'est vrai que les enfants bénéficiaires de l'association sont vraiment en manque d'opportunités. Donc ils n'ont pas du tout accès, on va dire, à l'Afrique du Sud moderne, à l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Et ils restent coincés dans des conditions de vie très dures. Et donc le rôle de notre association, c'est de leur offrir un soutien quotidien sur le long terme pour essayer de briser ce cercle de la pauvreté.
La vie à Johannesburg, j'y reviens, ça n'a pas l'air simple quand même. C'est une des villes les plus dangereuses du monde. Ça n'a pas l'air d'avoir changé, ça. Tu racontes que quand tu sors, bah, tu préviens ton mari. Si tu n'es pas rentré à un certain moment, il commence à s'inquiéter. C'est une ville dangereuse, Johannesburg?
Oui, malheureusement, les statistiques viennent juste de sortir pour la dernière année. Elles ne sont pas encore en amélioration, donc à ce niveau-là, c'est le problème de l'Afrique du Sud, parce que sinon, ça serait un pays, ça serait le Nirvana. Donc c'est le problème qui rend parfois la vie quotidienne difficile. Mais c'est pas la sécurité, on la voit pas, comment dire, c'est une insécurité sournoise qui se voit pas... Tu ne vois pas surtout aux yeux d'un touriste qui vient pour quelques jours, il se demande pourquoi tout le monde va se barricader derrière des grands murs, etc. Elle ne se voit pas cette insécurité, mais elle est là.
Ouais. Tu parles aussi du racisme qui est encore assez important à Johannesburg, un racisme des deux côtés. Le pays arc-en-ciel où tout le monde s'entend, c'est pas gagné alors?
Oui, bon, à ce niveau-là, on le chef de doute, c'est pas.
On est en train de perdre Magali. C'est pas grave. Est-ce que Stéphane est là, Stéphane?
Oui, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane. Tu seras
bonjour,
le dernier.
Bonjour Michel.
Tu seras le dernier de la série. Il nous reste 4 petites minutes. Stéphane, on s'est déjà parlé dans l'émission. Toi, ton cas c'est encore autre chose. T'avais une vie bien installée en France, hein, cadre supérieur dans une entreprise à Paris, maison au Vésiné, conditions de vie assez agréables. Et qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Tu t'es dit faut faire autre chose là. Je m'ennuie.
Bon, on est parti, voilà. On est parti avec ma femme et ma fille, mon petit chien. Et puis on était au Canada, au New Brunswick.
Au Canada, au New Brunswick, où tu es devenu boulanger, c'est ça?
Exactement, je suis devenu boulanger parce que juste avant de partir au Canada, j'avais décidé de passer un CAP de boulanger au cas où je ne trouverais pas de travail.
Pourquoi? Tu sentais que ton métier de cadre sup était en danger? Ou tu avais envie de changer? Tu avais envie de faire autre chose?
En France, c'était fini de toute manière. Et puis au Canada, au New Brunswick, entre autres, généralement, les diplômes ou les expériences professionnelles pour les Français ne sont pas trop reconnues, à moins d'avoir des compétences bien spécifiques. Donc, j'ai décidé plutôt que de travailler pour rien dans une société, si c'est travailler pour trouver un job quelconque, j'ai décidé plutôt de monter une boulangerie, quoi.
Mais c'est vrai que les Français, voilà. On les attend dans les métiers de bouche, on les attend sur le luxe, on les attend sur ces métiers-là. Ouais. Donc, quand t'arrives, t'es Français, que tu fais de la boulangerie, a priori, t'es légitime, quoi.
Des cadres sup, il y en a plein partout, on n'en a pas besoin.
Ouais. Exactement.
Non, mais ce qui t'a poussé à partir, c'est quoi? C'est le besoin, du coup, ou c'est l'envie de changer de monde?
C'était l'envie de partir. J'avais envie de partir depuis très jeune, et puis j'avais jamais eu l'occasion. Et puis, ces dernières années, je sentais que c'était un peu lourd. Il y avait une sorte de climat anxiolytique en France. Donc, c'était un peu pesant. Et puis, j'avais essayé de racheter une boulangerie sur Paris juste avant, en région parisienne exactement. Et puis, les banques m'avaient dit, écoutez, non, c'est pas possible. Même avec une reconversion professionnelle, ils voulaient pas en entendre parler. Donc, si on peut pas monter une société ici, ou du moins dans la nouvelle, dans le nouveau métier qu'on souhaite faire, on est parti à l'étranger.
Et est-ce que est-ce que la vie est plus agréable alors aujourd'hui? Est-ce que tu es content, tout simplement?
La vie est différente. Là, on est au New Brunswick actuellement, ça se passe bien. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans que la société tourne. On est dans nos objectifs, même en avant. Maintenant, est-ce qu'on est heureux? Oui, parce que c'est vrai que Sandrine et Michel sont venus. Hein, le New Brunswick, c'est pas très stressant, quoi.
On savait pas où c'était au début, mais on a trouvé quand même.
Personne sait où c'est le New Brunswick. C'est au Canada.
C'est plutôt cool, mais maintenant, est-ce que c'est la plus belle province du Canada? C'est une province. C'est pas forcément, je dirais, la plus économiquement la plus attractive. Il y a d'autres provinces où économiquement ça va beaucoup mieux. Là aujourd'hui, c'est la journée des élections provinciales au New Brunswick. Et puis on est confronté quand même à une économie qui est un peu chancelante. Il y a d'autres provinces actuellement au Canada qui connaissent beaucoup plus qui sont plus dynamiques au niveau économique, quoi.
Une dernière chose, maintenant que t'es boulanger, au cas où ça va plus au Canada, tu te sens de refaire la même aventure, je sais pas, en Australie, aux États-Unis, en Brésil, n'importe où?
C'est ce que je dis, il faut toujours être en mouvement.
Ouais.
Donc, non, mais c'est une très bonne expérience. On est content d'être parti. Maintenant, je pense que ce qui nous manque un petit peu, c'est de... La grande ville, quand même, nous manque un peu.
La grande ville vous manque un peu. Bah oui, ils sont en pleine forêt, ouais. Il fait moins 30 en hiver, tout ça.
Exactement. L'hiver dernier était une horreur.
Il faut avoir envie. Merci beaucoup, Stéphane. Il faut qu'on y aille. Merci Stéphane. D'être passé. Merci. À bientôt.
Merci. À bientôt. Au revoir, Paris. Bye bye.
Sandrine et Michel, il reste 30 secondes. Est-ce que vous avez envie de partir en rencontrant tous ces gens? Ça donne envie?
Bon, c'est vrai que ça donne envie de réfléchir.
Je suis mal placé pour poser cette question, mais bon.
Bon, on a l'occasion de partir déjà pas mal quand même.
Ouais, on voyage beaucoup et on se dit toujours hey, tu crois qu'on habiterait ici? Est-ce que ça te plaît ici? Est-ce qu'on poserait nos pénates ici? Et pour l'instant, on ne l'a jamais fait. On a un peu la trouille quand même.
Ah, si, moi j'ai été expat hein, déjà.
Oui, mais on a plus le temps de raconter. Si vous avez envie de partir, d'avoir tous les conseils, aussi. D'avoir des témoignages, d'avoir des encouragements, ça s'appelle Ils sont partis ailleurs, c'est chez La Martinière. Ciao tout type.